Un podcast France Culture.
Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz de marée? Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de tout et d'éternuement.
Mécanique des épidémies.
Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo, l'être non grippé.
Vous l'avez sûrement déjà eu. Mais certains hivers, beaucoup ne s'en remettent pas. 1918, 1977, 2009. Pourquoi ces années-là sont plus mortelles que d'autres? Peut-on les prévoir? En cherchant à résoudre ce mystère, des scientifiques de génie vont découvrir incidemment la pénicilline, l'ADN. Mais on va mettre des décennies pour le connaître vraiment, le virus de la grippe. Le médecin Renaud Piaroux va vous guider dans cette enquête épidémiologique. Remontez avec lui jusqu'à l'origine de la grippe. Pour mieux anticiper notre avenir, très probablement grippé.
Troisième saison, la grippe.
Habituellement, une pandémie, c'est une maladie infectieuse qui diffuse à toute la planète. Mais dans la grippe, on va distinguer les cas où finalement la diffusion est liée à un virus que l'homme connaît déjà et qui va faire assez peu de dégâts, de ce qu'on va appeler pandémie de grippe, lorsqu'on a affaire à un virus nouveau que l'homme ne connaît pas et qui va faire beaucoup plus de dégâts.
Premier épisode, la terrible grippe espagnole. 1918-1919.
La grippe espagnole est peut-être une chose dont on est sûr, c'est qu'elle n'a jamais débuté en Espagne. Elle a débuté en 1918, on était en guerre. Donc il était impossible d'aller parler d'autre chose que de bonnes nouvelles et l'existence d'une épidémie qui tue beaucoup de monde, en particulier des personnes jeunes, ne fait pas partie, à proprement parler, des bonnes nouvelles qu'on peut donner en temps de guerre. Si bien que la grippe pouvait avoir diffusé et faire des dégâts déjà très importants en Europe de l'Ouest sans qu'on en ait la moindre nouvelle dans les journaux. Et c'est simplement en Espagne que l'histoire a été connue. Et par simplicité, on appelait ça grippe espagnole.
Une épidémie, Forrest. Une guerre à laquelle on ne s'attendait pas.
La grippe? Mais c'est anodin.
Il ne s'agit pas de n'importe quelle grippe. Celle qui nous tombe dessus est d'une rare violence.
Mais pourquoi pas le choléra? Il sévirait dans les tranchées.
Forrest, il a suffi de 3 jours pour que 70% de la population madrilène soit infectée. 90 000 malades rien qu'à Madrid. Le roi Alphonse XIII est gravement atteint depuis qu'il a assisté à l'office du 27 mai dans la chapelle du palais où se trouvait une foule immense. La quasi-totalité du gouvernement est aussi alitée.
La grippe espagnole, alors?
La pandémie de grippe espagnole est la pandémie qui a tué le plus d'hommes de toute l'histoire de l'humanité. Elle a tué plus de monde que la peste noire au Moyen Âge. Alors ça, c'est en nombre absolu. En nombre relatif, la peste noire a fait plus de dégâts, par exemple, en Europe, en tuant un tiers de la population, que la grippe espagnole. Après, c'est un sujet intéressant parce que c'est la première pandémie pour laquelle on a effectivement une documentation qui permet de comprendre quel est l'agent pathogène exactement et comment il a diffusé, comment il s'est modifié au cours de la pandémie, d'une vague à l'autre. Et finalement, c'est aussi la première fois où la médecine moderne s'attaque à la problématique d'une pandémie. Il y a une tentative d'approcher la pandémie par des approches modernes et non plus par des théories anciennes, des humeurs ou des miasmes, des choses comme ça, comme on pouvait avoir par exemple pendant les pandémies de choléra au 19e siècle. On voit au tout début de l'année 1918... au Kansas, dans le comté de Haskell, donc un endroit avec pas mal d'élevage, à la fois des bovins, mais aussi des ovins, mais aussi des volailles, il y a une épidémie inhabituelle avec quand même une mortalité plus importante qu'ailleurs. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, cette épidémie va se déclencher dans un camp de militaires. On est en l'année 1918, les États-Unis sont en train de former une armée très importante qu'ils envoient ensuite en Europe pour aller combattre l'Allemagne. Et Pour les former, ils ont monté des camps immenses où il y a des dizaines de milliers de soldats. Et dans ce camp, au Kansas, se déclare une épidémie. Alors, on ne sait pas que c'est de la grippe, d'ailleurs ce sera le sujet de quelque chose, mais qui provoque des formes déjà assez graves et des décès chez un certain nombre de soldats, pourtant jeunes, en bonne santé a priori, puisqu'on les envoyait faire la guerre. Et donc cette épidémie va se développer dans ce camp, puis ensuite passer d'un camp à l'autre, et petit à petit diffuser jusqu'à arriver quelques semaines après, à Brest, par bateau évidemment, et ensuite diffusé en France et puis en Angleterre, de l'autre côté du front en Allemagne et finalement en Espagne. C'est une première vague épidémique, déjà inquiétante, mais pas forcément extrêmement meurtrière. Et puis au mois d'août de la même année, des bateaux reviennent d'Europe, arrive aux États-Unis, et là on a affaire à une forme extrêmement meurtrière, avec des personnes qui meurent en quelques jours de détresse respiratoire aiguë. On voit ça à Boston, on voit ça à Philadelphie, on voit ça dans les ports de l'Est des États-Unis, puis ensuite ça va rediffuser, d'abord de camp militaire en camp militaire, puis dans la population civile, avec des épisodes où on voit que certaines villes s'arrêtent complètement, il n'y a plus personne qui sort, il y a des morts presque dans chaque foyer, en tout cas des malades graves dans chaque foyer, et surtout des personnes jeunes qui meurent, et qui meurent en ayant des difficultés respiratoires. Certains se posent même la question, est-ce que ce n'est pas la peste noire qui revient ? Est-ce que c'est simplement une grippe ? Est-ce que c'est pas autre chose? Et c'est toute la difficulté de la grippe, justement, de donner des formes de gravité extrêmement diverses selon les modifications du virus liées à des recombinaisons génétiques, liées à des mutations successives.
Tu les as vus?
Ils sont allongés sur le côté, à demi assis. Respiration brève, visage plombé, lèvres et ongles bleus. C'est fou comme ils s'agitent dans leur lit. Ils sont couverts de sueur. Ils crachent de la mousse blanche, sanguinolente. Tout d'un coup, survient une pluie de râles. Et c'est l'asphyxie. La mort, quoi.
T'entends? À côté, on dirait des râles. Sauvons-nous.
La particularité de la pandémie de grippe espagnole est justement que les personnes les plus touchées avaient entre 20 et 40 ans. Plus de la moitié des morts avaient entre 20 et 40 ans, ce qui est quelque chose qui fait vraiment la différence, parce que là, c'est les jeunes, c'est les soldats essentiellement qui vont mourir de cette grippe, alors qu'ils étaient en parfaite santé quelques jours avant. C'est pas une personne de 80 ans qui se trouve en maison de retraite et qui est déjà fragilisée avec beaucoup de traitements, etc. Même si aucune mort n'est acceptable, il y en a des plus étonnantes que d'autres. Quand on a une pandémie en temps de guerre, la priorité est à l'armée. Donc les soignants sont recrutés par l'armée. Il y a moins de personnes pour s'occuper des populations civiles. Et il y a les nécessités du service. Si on a un camp militaire avec une épidémie importante, ça s'est répété des dizaines de fois. Si on n'a pas l'ascendant sur les généraux, eux, ils s'en foutent. Ils ont besoin que les militaires aillent d'un endroit à l'autre, embarquent sur un bateau. Et tant pis s'il y a de la casse, puisque c'est un peu l'état d'esprit des militaires, surtout lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, finalement, que les soldats tombent malades, en plus, la grippe, vue par un militaire, c'est pas forcément quelque chose de très grave, ne leur importait pas jusqu'au moment où ils se retrouvaient vraiment devant un quart, par exemple, de leur troupe hospitalisée. Là, ça commençait à les gêner. Mais finalement, les militaires, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, ont rien fait pour limiter la transmission.
Comment ça se passait en 18? Vous étiez au front?
Ça se passait très mal.
Oui. Que faisait le médecin à ce moment-là, alors?
Oh, il faisait ce qu'il pouvait. Vraiment, j'ai des souvenirs vraiment pénibles et affreux quand quand vous faites évoquer ce temps. Parce que à cette époque, j'étais jeune médecin et bien entendu aux armées. Et j'ai vu mes camarades et soldats qui avaient pu résister à tant de fusillades et de bombardements et de la guerre, terrassés par la grippe et avec des complications pulmonaires très graves. Et nous n'avions pas vraiment de médicaments actifs. Vous savez, on soutenait le cœur avec de l'huile camphrée, de la digitale, on faisait respirer l'oxygène, ce qui ne sert pas à grand-chose. Nous avions des moyens très, très mesquins, très faibles pour lutter, et nous étions vraiment malheureux.
Et on peut même penser que cette deuxième vague particulièrement grave a pu être favorisée par la guerre, dans la mesure où l'essentiel du problème se pose parmi les soldats, soit dans les camps d'entraînement, soit sur le front. Finalement, quand ils tombaient très gravement malades, on les regroupait. Et on facilitait la transmission, puisqu'il n'y avait pas tellement de lutte. Les malades n'étaient pas isolés les uns des autres. Ça veut dire que le virus pouvait facilement se transmettre dans les camps d'entraînement, dans les zones militaires, même quand les gens étaient gravement malades. Et donc, ça faisait que d'une génération de virus à l'autre, on pouvait même avoir une aggravation et un virus qui devient de plus en plus pathogène, causant de plus en plus de symptômes.
Alors, à ce moment-là, c'est cette grippe espagnole qui s'est déclarée et on nous a relevé encore là de ligne et on nous a envoyé en quarantaine dans un coin qu'on était tout seul, quoi. Et je jure que là, il y a eu beaucoup de gars qui en sont morts et ça faisait mourir tous les gars costauds, tous les gars grands, forts.
Dans un cas normal, si on prend une épidémie avec des formes graves, on va essayer de trouver les personnes fortement malades et on va les isoler. En période de paix, c'est ce qu'on fait. On les regroupe pas quelque part et on ne laisse pas les gens dans leur dortoir tous ensemble puisqu'ils sont malades, tant pis, on verra bien. Et donc, on va plutôt écarter de la circulation et de la transmission d'homme à homme les formes les plus graves. Donc, peut-être que l'explication de la gravité très particulière de cette deuxième vague tient en partie aussi sur le comportement que les militaires ont pu avoir pour prendre en charge les patients. Enfin, pour eux, ce n'étaient pas des patients. Des fois, il suffit d'un malade pour avoir des conséquences désastreuses. L'histoire de France nous enseigne le traité de Versailles. Les conditions dans lesquelles la paix est finalement déclarée après l'armistice. Pendant quelques mois, il y a des négociations auxquels participent les Américains, les Anglais, les Français essentiellement. Les Allemands sont mis sur le côté, ils sont là juste pour signer à la fin. Et le président Wilson des États-Unis est quelqu'un relativement sage dans cette histoire-là. Il se dit, il faut pas avoir des conditions trop drastiques parce que sinon ça va créer un ressentiment et de toute façon, on revient vers un cycle de guerre entre la France et l'Allemagne. Il vaut mieux faire la paix que d'abuser d'une position dominante. Et malheureusement, il se trouve que le président Wilson va tomber malade, attraper la grippe en 1919, au moment des négociations, et il est très affaibli, et il finit par céder. Et ça va donner un traité de Versailles extrêmement déséquilibré, qui laisse peu de chance à l'Allemagne de retrouver un mode de vie normal, et donc qui assure une période extrêmement dure et de ressentiment à l'Allemagne. Mais maintenant, pratiquement tous les historiens reconnaissent que les termes du traité de Versailles avaient porté en eux les germes de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est finalement quelque chose qui est lié au fait que le président américain est tombé malade et n'a pas pu tenir face à un négociateur extrêmement rude qu'était Clémenceau. La pandémie ne s'est pas contentée de toucher les pays en guerre et l'Espagne. Des pays comme l'Inde ont été encore plus sévèrement touchés, sauf que on a assez peu d'informations, mais on pense qu'il y a eu au minimum 20 millions de morts en Inde liés à cette pandémie. On la regarde avec notre regard occidental et avec des informations peut-être plus précises sur ce qui s'est passé aux États-Unis en particulier. Mais en fait, c'était quelque chose qui a été extrêmement meurtrier dans d'autres pays. Et plus un pays est peuplé, plus on peut avoir des mortalités extrêmement élevées. Et au total, 100 millions de morts pour la population du monde à ce moment-là, c'est à peu près 5%.
Face à ces millions de morts causés par la grippe espagnole, la communauté scientifique se mobilise pour tenter de répondre à la question cruciale. D'où vient cette maladie qu'on appelle grippe? Alors qu'ils ne connaissent même pas encore le principe du virus, les scientifiques se lancent dans une formidable course au progrès.